Bonjour, mes frères et sœurs. Je voudrais vous raconter une histoire vraie, qui s'est passée il y a quelques semaines, le jour de la Saint-Valentin, comme par hasard. Nous ne fêtons pas la Saint-Valentin, mais vous comprenez bien que c'est un jour très spécial pour certaines personnes dans le monde, des maris et des femmes qui célèbrent l'amour d'une manière qui n'est pas la nôtre, mais qui reste néanmoins importante pour eux. Et je veux vous raconter l'histoire de ma tante et de mon oncle qui ont fêté la Saint-Valentin, il y a quoi, 3 ou 4 semaines maintenant. Mon oncle, ce n'est pas mon oncle de sang, ma tante, la sœur de ma mère, et lui était déterminé à sortir pour un déjeuner spécial. Mon oncle est arrivé au lieu de rendez-vous et a commencé à attendre ma tante. Il a attendu, attendu, mais personne n'est venu. Il a donc appelé son numéro de téléphone, et au lieu qu'elle décroche, ce sont les ambulanciers qui ont répondu et lui ont dit: « Monsieur, votre femme a subi un grave anévrisme cérébral. » Et 8 jours plus tard, sans avoir repris conscience, sans qu'il ait pu lui dire au revoir, sans qu'il ait pu prononcer ses derniers mots, sans qu'il ait eu le temps de se préparer à sa mort, elle est décédée. C'était fini. Je ne vous raconte pas cette histoire pour susciter votre compassion, mais pour illustrer un point qui introduit ce dont nous allons parler. La vie peut basculer en un instant de manière très, très spectaculaire, d'une manière que nous ne pouvons pas anticiper, d'une manière que nous ne pouvons pas changer. Un instant, vous pouvez vous réjouir à l'idée d'un bon repas ou d'un rendez-vous avec votre moitié, et l'instant d'après, vous pouvez apprendre la pire nouvelle qui soit au téléphone. Une autre histoire similaire, moins grave, mais similaire. J'ai un cousin qui est l'une des personnes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées, physiquement parlant. Son oncle, qui n'était pas de son sang, mais son oncle, était un boxeur d'élite en Australie, un homme extrêmement puissant, au sommet de la boxe australienne. Et son neveu, mon cousin, était lui aussi incroyablement fort, sans avoir suivi d'entraînement de boxeur. Mais je me souviens, quand j'étais enfant, qu'il venait chez nous, et nous avions un sac de frappe au sous-sol, un sac lourd, et lui, à l'arrêt, sans même prendre son élan, frappait le sac de frappe, et si le sac ne touchait pas le plafond, il le touchait presque à l'arrêt. Tellement il était fort. Un être humain incroyablement puissant. Bon, il était camionneur, et il roulait dans le Dakota du Nord et du Sud, pendant le boom pétrolier. C'était une industrie en plein essor il y a une dizaine, une vingtaine d'années. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais dans son semi-remorque, il a été percuté de plein fouet par un autre semi-remorque. Et vous pouvez être l'homme le plus fort du monde, mais si un camion Mack percute le côté conducteur, vous ne serez plus aussi fort après cet accident. Une fraction de seconde, mes frères, peut tout changer. Il peut encore se déplacer, mais il n'est plus ce qu'il était. Vous comprenez? La vie peut basculer en un instant, à cause d'un seul événement incontrôlable, survenu à l'improviste. Ouvrez l'Ecclésiaste au chapitre 9, pendant que nous dressons la table ici. L'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. L'Ecclésiaste 9, 11. Je suis revenu et j'ai vu sous le soleil que la course n'appartient pas aux agiles, a écrit Salomon, ni la bataille aux forts, ni le pain aux sages, ni les richesses aux hommes d'intelligence, ni la faveur aux hommes d'habileté. Mais le temps et le hasard arrivent à tous. Imprévisible. Car l'homme ne connaît pas non plus son heure. Il ne sait pas quand il va mourir. Personne ne le savait. Nous ne savions pas quand ma tante allait mourir. Mon cousin ne savait pas quand ce semi-remorque allait le percuter. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Comme les poissons pris dans un filet maléfique, et comme les oiseaux pris au piège, Ainsi les fils de l'homme sont pris au piège en un temps maléfique, quand il s'abat soudainement sur eux. La vie, comme nous le savons, n'est pas toujours juste. La mort absurde fait partie de cette vie, coupée de Dieu. Encore une histoire avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Encore une histoire. Mon grand-oncle a été tué d'une manière des plus inhabituelles. Cela montre à quel point cette vie est éphémère, à quel point elle est fragile. Il s'agissait de mon oncle du côté de mon père. Ils étaient agriculteurs, et ils se trouvaient à la ferme, et il y avait un homme riche qui vivait près d'eux. Un jeune homme riche. Et il volait des fruits dans les arbres. Ce serait une chose s'il avait eu faim, mais c'était une personne aisée qui volait simplement les fruits des pauvres. Mon grand-oncle s'en est offusqué et lui a dit, si je te surprends encore à faire cela, je vais te tabasser. Eh bien, le temps a passé, et mon oncle a surpris ce jeune homme en train de voler des fruits à nouveau. Mon grand-oncle, plutôt. Et ce jeune homme riche savait ce que mon oncle avait dit, alors il a pris un fusil et lui a tiré dans la poitrine. Et alors que mon grand-oncle gisait là, mourant, je crois que j'ai raconté cela dans un sermon il y a longtemps, mais la plupart d'entre vous ne l'ont sans doute pas entendu. Alors que mon grand-oncle gisait là, mourant, il a pris son doigt, l'a trempé dans le sang de la blessure et a écrit sur sa chemise le nom de celui qui l'avait tué. À ce moment-là, son frère, mon grand-père, a fait le serment, je vais tuer cet homme. Ces vendettas naissent de manière étrange, mais elles sont bien réelles. Je vais tuer cet homme. Eh bien, cet homme riche, étant riche, a pu s'enfuir aux États-Unis, et l'affaire en est restée là. Je veux dire, il ne pourrait pas tenir son serment là-bas. Mais des décennies plus tard, quand mon père était tout petit, il se souvenait très bien d'avoir vu des bottes encercler la maison au milieu de la nuit. Et la police est entrée, a emmené mon grand-père et l'a mis en cellule, parce que ce riche homme voulait revenir lui rendre visite sans craindre de représailles. Ça ne semble pas juste, cela ne semble pas équitable, mais la vie n'est pas équitable. Cet homme a donc passé de bonnes vacances, et quand il est rentré aux États-Unis, la police corrompue a relâché mon grand-père. Non pas qu'ils auraient dû le tuer, je ne dis pas qu'ils auraient dû le permettre, mais justice n'a pas été rendue. La vie peut basculer en un instant. Vous pouvez défendre vos récoltes et, l'instant d'après, vous retrouver avec une balle dans la poitrine, avec des conséquences pour des générations. Ouvrez votre Bible au chapitre 13 de Luc. On ne peut pas prédire ce qui se passe dans un monde coupé de Dieu. Luc, chapitre 13, verset 1. Il y avait là, en ce moment-là, des gens qui lui parlaient du Christ de Galilée, dont Pilate y avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi de telles choses? Ils ont connu une fin tragique, un accident bizarre pourrait-on dire, mais pas un accident. Un meurtre tragique au mauvais endroit au mauvais moment, je vous le dis, non, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. En d'autres termes, si vous mourrez coupé de Dieu, peu importe comment vous mourrez. Vous pourriez être abattu d'une balle dans la poitrine dans un verger. Vous pourriez être en route pour rejoindre votre moitié le jour de la Saint-Valentin et être victime d'un anévrisme cérébral massif. Vous pourriez être en train d'offrir un sacrifice dans le temple et être tué. Mais si nous ne nous sommes pas repentis, si nous n'avons pas développé une relation avec Dieu, nous périrons tous de la même manière, a dit Christ ici. Ou ces 18 sur lesquels la tour de Siloé s'est effondrée et les a tués, pensez-vous qu'ils étaient plus pécheurs que tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Je vous le dis, non, mais si vous ne vous repentez pas, Vous périrez tous de la même manière. Je n'ai jamais tout à fait compris ce concept selon lequel Tyler aurait mêlé leur sang à celui des sacrifices. Et le commentaire de Barnes semble proposer une explication plausible. Il n'y a aucune mention chez Joseph ni dans d'autres récits où nous pourrions trouver cela, mais le commentaire de Barnes explique que, tandis qu'ils offraient des sacrifices à Jérusalem, Pilate s'est soudainement abattu sur eux et les a tués, et leur sang s'est mêlé au sang des animaux qu'ils égorgeaient pour le sacrifice. Cela ne signifie pas que Pilate a offert leur sang en sacrifice, mais seulement que, alors qu'ils offraient leur sacrifice, comme ils avaient l'habitude de le faire, alors qu'ils menaient leur vie normale, il les a tués. Frères et sœurs, que vous meniez votre vie naturelle, que je mène ma vie naturelle, ou qu'un désastre survienne prématurément, nous bénéficions bien sûr de la protection de Dieu. Le résultat est le même si une personne n'est pas en relation avec Dieu. Tel est le message ici. Or, même si nous sommes en communion avec Dieu, le malheur peut encore nous frapper pour nous enseigner de grandes leçons. Prenons l'exemple de Job, réfléchissons-y un instant. Dieu a un dessein profond en permettant que ce que nous pourrions considérer comme le fruit du hasard ou du destin nous arrive, mais qu'en est-il de nous? D'une certaine manière, nous sommes très différents de toutes les générations passées. Nous menons une vie très différente, car vous et moi, mes frères, nous n'allons pas mourir. C'est tout à fait unique. Je veux dire, peut-être qu'un ou deux personnes âgées parmi nous, dans le très court laps de temps qui nous reste, finiront leur parcours, mais dans l'ensemble, vous et moi n'allons pas mourir. Nous ne sommes pas comme les serviteurs de Dieu du passé. Nous ne sommes pas comme les peuples du passé. Nous occupons une place tout à fait unique dans le plan de Dieu, et il se trouve que, bien qu'il soit réservé à tous les hommes de mourir une seule fois, cela ne nous affectera pas, vous et moi, de la même manière. Nous y avons probablement déjà réfléchi, mais c'est une affirmation extraordinaire. Un moment approche, mes frères, très bientôt, pas un moment comme cette réunion de la Saint-Valentin ou dans ce temple où certaines personnes ont été massacrées, et où leur sang s'est mêlé à celui des animaux. Un moment approche très bientôt, mes frères, où tout va changer. Rien ne sera plus jamais pareil. La vie changera pour toujours et probablement, espérons-le, pour le mieux, d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer, pour vous et moi. Ce moment qui changera notre vie sera merveilleux, d'une merveille incompréhensible. Et nous savons que ceux qui ont subi ces tragédies dont j'ai parlé plus tôt, et d'innombrables autres tragédies que l'on pourrait énumérer, celles dont on a connaissance et celles dont on ignore l'existence, toutes ces personnes auront un avenir merveilleux, une chance merveilleuse d'accéder à ce que nous recherchons aujourd'hui. Ce sur quoi nous voulons nous concentrer aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est de la manière dont nous planifions, dont nous nous préparons, dont nous nous assurons d'être prêts pour ce moment qui va changer nos vies et qui se profile à l'horizon. Vous voyez, nous avons le luxe de savoir qu'un moment spectaculaire, qui va changer nos vies, est en train d'arriver. Nous n'avons pas à être pris au dépourvu, et ce ne sera pas un moment terrible pour nous. Incroyable. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Comment planifions-nous? Comment nous préparons-nous à ce moment qui va changer nos vies et dont nous savons, nous seuls, qu'il arrive? Eh bien, la première étape consiste à prendre conscience, à prendre profondément conscience du fait que le temps est compté. Nous ne comprenons pas toujours parfaitement le timing. Nous ne le comprenons pas. Et tant que Dieu n'interviendra pas, nous ne comprendrons pas tout parfaitement. Mais nous savons qu'il est court. Ouvrez maintenant Matthieu chapitre 16, Matthieu 16. Je suis étonné de voir à quel point les prévisions météorologiques sont devenues précises. On peut pratiquement s'y fier. Ce n'était pas le cas autrefois. Avant, si le météorologue disait qu'il allait neiger, il ne neigeait probablement pas. Ou si le météorologue disait, oh, vous n'avez pas à vous inquiéter de la neige, vous alliez probablement vous retrouver dans une tempête de neige. C'était terrible. Du moins, c'est ainsi que je m'en souviens. Mais aujourd'hui, quoi que dise le météorologue, c'est comme si je lisais une prophétie qui s'accomplit. Ils sont devenus si précis. S'ils annoncent qu'il va pleuvoir entre 14h et 16h, je ne sais pas comment ils peuvent le savoir. S'ils disent qu'il fera 12 degrés Celsius demain à 18h, la température est généralement à 1 ou 2 degrés près. C'est incroyable. Matthieu, chapitre 16, verset 1. Les pharisiens et les sadducéens vinrent aussi, et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandèrent de leur montrer un signe venant du ciel. Il leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il fera mauvais temps aujourd'hui, car le ciel est rouge et menaçant. » Ils pouvaient prédire le temps. Pas au même degré que les gens peuvent le faire aujourd'hui grâce à toutes les avancées scientifiques, aux instruments météorologiques disponibles et aux innovations dans ce domaine. Ô, hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous pouvez prédire le temps, mais ne pouvez-vous pas discerner les signes des temps? Il a dit cela il y a 2000 ans. Eh bien, nous savons que le prochain grand événement spectaculaire dans le plan de Dieu se profile à l'horizon. Nous devons être capables de discerner les signes des temps. Nous devons être profondément conscients du fait que le temps est court. Nous devons être profondément convaincus que le temps est court afin d'être prêts pour ce moment qui approche. Nous ne pouvons pas adopter une approche insouciante et nonchalante de la vie. Nous devons vivre en sachant que le temps est compté, et comme si le temps était compté, car nous savons que c'est le cas. Nous pouvons discerner les signes des temps. Nous avons un maître qui nous indique tous les repères afin que nous puissions discerner les signes des temps. Psaume 90. Nous ne devons pas seulement discerner les signes des temps, mais nous devons les discerner en fonction de ce que cela signifie concrètement pour nos vies. Psaume, chapitre 90. Cette première étape clé, qui consiste à accepter le fait que le temps est court et ce que cela signifie pour nous, ouvre la voie à toutes les étapes suivantes. Psaume, chapitre 90, verset 2. Avant que les montagnes ne fussent nées, avant que tu n'aies formé la terre et le monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Je pense que c'est Moïse qui parle. Tu ramènes l'homme à la poussière et tu dis, retournez, enfant des hommes. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier qui est passé, comme une veille dans la nuit. Nous y reviendrons plus tard dans le Nouveau Testament. Tu les emportes comme par un déluge. Ils sont comme endormis. Le matin, ils sont comme l'herbe qui pousse. Le matin, elle s'épanouit et grandit. Le soir, elle est coupée et se flétrit. Car nous sommes consumés par ta colère et par ta fureur, nous sommes troublés. Tu as mis nos iniquités devant toi, nos péchés secrets à la lumière de ta face. Car tous nos jours s'écoulent dans ta fureur. Nous passons nos années comme un conte qui est raconté. Or, Dieu peut se mettre en colère, à juste titre, mais espérons qu'il n'était pas en colère contre nous. Nous faisons ce qui lui est agréable, comme l'a dit l'apôtre Jean. Les jours de nos années, verset 10, sont de 70. Et si, par la force, ils atteignent 80 ans, ce n'est que peine et chagrin. Car ils sont bientôt coupés et nous nous envolons. L'homme a 70 ans. Il peut en avoir 80, cela ne s'applique pas à nous de la même manière. Mais la phrase suivante s'applique. qui connaît la puissance de ta colère, même selon ta crainte? Pas celle-là. Il en va de même pour ta fureur. Voici ce qui s'applique à nous. Même si nous n'atteignons pas nos 70 ou 80 ans. Enseigne-nous donc à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Si vous étiez un véritable saint vivant au XVIIe siècle, vous pourriez regarder cela et vous dire, « Bon, j'ai 50 ans. Il me reste peut-être encore 20, voire 30 ans à vivre. Est-ce que je vis conformément à la volonté de Dieu? Est-ce que je mène une vie qui me permettra d'entrer dans sa famille? Peut-être aurez-vous 65 ans lorsque vous serez appelé. Au XVIe siècle, il ne me restait peut-être plus que 5 ans à vivre. Je dois racheter le temps, je dois rattraper mon retard. Ce n'est pas comme cela pour nous, frères et sœurs. Nous n'avons pas le luxe de savoir que nous avons 70 ou 80 ans devant nous. Nous devons compter nos jours afin de consacrer notre cœur à la sagesse et de savoir que nous avons encore moins de temps. C'est pourquoi cette étape est si cruciale pour nous préparer à ce moment qui va changer notre vie et qui est juste devant nous. Nous devons savoir que nous n'avons pas beaucoup de temps. Ni vous ni moi. Dans ce contexte, cette première étape étant posée, prenons un peu de recul, et cette partie du sermon traite des ratios. Vous connaissez les ratios. Je passe, l'être humain moyen passe environ 8 heures à dormir et 16 à réveiller, un ratio d'un pour deux. 16, c'est deux fois plus que 8. C'est un ratio, bien sûr. Je ne vous apprends rien. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que je vais vous parler de quatre rapports ici. Premier rapport, j'aimerais que vous notiez le nombre d'années que vous avez vécues, si vous le voulez bien. Combien d'années avez-vous vécu? J'ai 38 ans, mais pour les besoins de la discussion, je vais dire 40 pour cet exercice. Vous avez donc un chiffre là, le nombre d'années que vous avez vécues. Maintenant que nous comprenons les anniversaires, il sera peut-être plus facile de vous souvenir de votre âge. Souvenez-vous, pendant très longtemps, quand on me demandait mon âge, je me grattais la tête parce que je ne marquais pas ces étapes importantes, je devais faire des calculs avec 1988. Et je devais avoir l'air bizarre, de ne pas savoir quel âge j'avais aux yeux de certaines personnes, mais ce n'est plus le cas, heureusement. J'ai 38 ans, je le sais, mes frères. Rire, mais je vais utiliser 40 ici. Maintenant, prenez ce chiffre, tracez une ligne en dessous, divisez-le par 6000. Donc, votre âge divisé par 6000. Peut-être êtes-vous plus doué que d'autres pour la division longue. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Vous pourriez vous rendre compte que quelqu'un a oublié ses maths du primaire, mais vous pouvez rentrer chez vous avec une calculatrice et le faire plus tard si c'est trop difficile pour l'instant. Mais pour les besoins de la discussion, je vais me considérer comme ayant 40 ans. 40 divisé par 6000, cela fait 150. C'est le premier rapport, 1 pour 150. Ou quel que soit votre rapport, il sera différent selon l'époque où vous vivez. Si vous avez 20 ans, ce sera, quoi, 20 pour 300. Si vous avez 50 ans, ce sera, quoi, 50 pour 120, je pense, si mes calculs sont bons. Je me trahis peut-être là. Mais bon, c'est le nombre de vies qu'il vous faudrait vivre juste pour revenir au jardin. Ça met vraiment en perspective le peu d'années dont nous disposons. Je devrais vivre 150 vies successives pour arriver au point où nous en sommes actuellement dans la prophétie. Mais je n'ai qu'une seule vie. Vous n'avez qu'une seule vie. Nous n'avons qu'un temps très court pour écrire notre histoire qui restera pour l'éternité. C'est incroyable, vraiment, quand on y pense. Nous ne sommes ici que pour une infime fraction du temps depuis que l'humanité existe. Pourtant, nous venons de lire ce que Moïse a dit au sujet du temps. Voyons ce que Pierre dit ici. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Vous avez votre référence. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 1. Cette deuxième épître, verset 1, « Bien-aimés, je vous écris maintenant, afin de raviver par le souvenir vos esprits purs, pour que vous vous souveniez des paroles qui ont été prononcées auparavant par les saints prophètes et du commandement des apôtres du Seigneur et Sauveur. Sachez d'abord ceci, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs qui marcheront selon leur propre convoitise et diront, où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères se sont endormis, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Sans entrer ici dans les détails techniques, les gens ont tendance à perdre de vue la situation dans son ensemble. Car ils ignorent volontairement que, par la parole de Dieu, les cieux ont existé depuis longtemps et que la terre a été formée hors de l'eau et au milieu de l'eau, par quoi le monde d'alors, submergé par l'eau, a péri. Mais les cieux et la terre qui existent maintenant sont conservés par la même parole, réservés pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais, bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose, qu'un jour est comme 1000 ans auprès du Seigneur, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas quant à ses promesses. Certains considèrent cela comme de la lenteur, mais c'est sa patience envers nous, car il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ainsi, nos 20 ans, nos 30 ans, nos 40 ans, 50, 60, quel que soit le temps qui nous est donné, ne représentent qu'une infime fraction de l'existence humaine. Pourtant, pour Dieu, ce n'est pratiquement rien. Car si 6000 ans, le temps que l'homme a passé ici depuis le jardin, sont pour Dieu comme 6 jours, cela montre comment il perçoit le temps. Il est là depuis toujours. C'est très difficile à saisir pour notre esprit. Alors plutôt que de considérer notre vie comme un rapport sur 6000, 20 sur 300, par exemple, pensez à, si vous avez 20 ans, considérez cela comme 20 par rapport à l'éternité. 20 sur l'infini, 30 sur l'infini, 40 sur l'infini, quel que soit votre âge. En réalité, on ne peut pas exprimer mathématiquement une fraction en ces termes, mais c'est néanmoins un rapport. Mes frères, vous et moi disposons d'un temps très court, qui s'amenuise de jour en jour, pour écrire une histoire qui durera pour l'éternité. Parfois, la vie peut sembler longue, mais elle est si courte dans le grand schéma des choses. Et nous devons garder cela à l'esprit. Tout ce que nous faisons dans cette vie très, très courte, aura un impact sur ce que nous ferons pour l'éternité. Quand les choses sont difficiles, pensons-y, méditons là-dessus. Oui, les choses sont difficiles, mais je ne suis ici que le temps d'un clin d'œil, et si je m'acquitte bien de ma tâche pendant ce clin d'œil, je façonne ma vie éternelle. C'est vraiment profond si nous prenons le temps d'y réfléchir, comme je suis sûr que nous le faisons. Une décennie peut sembler longue, mais elle est courte dans le grand schéma des choses, et c'est cette décennie, ou quelle que soit sa durée, qui nous permet d'écrire notre histoire pour l'éternité. Nous sommes là, puis nous disparaissons, Jacques chapitre 4, Jacques 4, verset 14. Jacques 4, 14. Vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Qu'est-ce que votre vie? Elle est comme une vapeur qui apparaît un instant, puis disparaît, elle est là, puis s'en va. Pourtant, si nous utilisons cette vapeur à bon escient, nous pourrions être ici pour toujours, avec un avenir merveilleux et insondable. Si seulement nous utilisions ce petit bout de temps qui nous a été donné dans le grand schéma des choses. Psaume chapitre 8. Dieu nous offre une telle opportunité. Psaume 8. Ô Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui as étendu ta gloire au-dessus des cieux. Nous comprenons maintenant à quel point le troisième ciel est proche. Sa gloire s'étend au-delà. Sa gloire imprègne l'univers, et peut-être même au-delà. Je ne comprends pas tout à fait. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous comprenne pleinement à quel point la création de Dieu est vaste. De la bouche des enfants et des nourrissons, tu as établi la force, à cause de tes ennemis, pour réduire au silence l'ennemi et le vengeur. Quand je contemple tes cieux, l'œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu le visites? Cette création éphémère, cette création qui ne durera peut-être que 60 ou 70 ans, face à ces soleils et ces étoiles qui sont là depuis qui sait combien de temps. J'ai eu un jour l'occasion, je crois que c'était dans la région de Cleveland, d'observer les étoiles à travers un télescope extraordinaire, comme ce qu'on trouve dans les planétariums, je crois qu'on les appelle ainsi. Ils ont essayé de m'expliquer que les étoiles que je voyais une image vieille de X années, de plusieurs milliers d'années, en raison de la façon dont la lumière se propage. Ce n'est pas forcément le genre de choses qui m'intéresse particulièrement ou qui me passionne, mais je ne parvenais pas à bien saisir ce concept sans approfondir la question. Le fait que je puisse voir quelque chose de si ancien que je le vois tel qu'il était il y a 25 000 ans, ou peu importe depuis combien de temps, à travers ce télescope, c'est presque incompréhensible pour l'esprit humain. Et je dirais qu'avant que nous découvrions des choses comme la vitesse de la lumière, je serais d'accord avec le reste de l'humanité. Donc, si vous, mes frères, comprenez cela mieux que moi, tant mieux pour vous. Pour moi, c'est l'un de ces mystères. Si je vois quelque chose de mes propres yeux, pour moi, c'est ainsi que les choses sont aujourd'hui, mais il y a peut-être une subtilité scientifique que je ne comprends pas entièrement. Tout ce que je sais, tout ce que j'en retiens, c'est que ces étoiles sont incroyablement anciennes, et pourtant Dieu dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Comparé à ces grands corps célestes là-haut, ces œuvres des doigts de Dieu, et au Fils de l'homme pour que tu le visites, car tu l'as fait un peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as établi pour qu'il domine sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tous les moutons et les bœufs, oui, et les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, et tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Ô Seigneur, notre Dieu, combien ton nom est excellent sur toute la terre. Et puis, si l'on se tourne vers Paul, il explique dans l'Épître aux Hébreux que nous n'avons pas encore vu toutes choses mises sous nos pieds. Nous connaissons notre formidable potentiel. Nous connaissons notre avenir. Pourtant, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? À peine là comme une vapeur, puis disparu, et pourtant tout cela va nous être confié? Incroyable! Et nous n'avons qu'un temps très court pour bâtir notre héritage. Peut-être n'êtes-vous dans l'Église de Dieu que depuis quelques mois, voire quelques semaines. Ce que vous faites en ce moment aura une influence considérable sur ce que vous ferez pour le reste de votre vie, si je puis m'exprimer ainsi. Ésaïe, chapitre 40. Nous étions là à regarder Jérusalem la semaine dernière, mais Ésaïe, chapitre 40, et nous reprendrons un peu après cela, après ce que nous avons lu le jour du sabbat. Verset 9, ce rapport est extraordinaire. Notre vie est comparée à l'éternité. Verset 9, ô Sion, porteuse de bonnes nouvelles, monte sur la haute montagne. Ô Jérusalem, porteuse de bonnes nouvelles, élève ta voix avec force, élève-la et ne crains rien. dit aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici, le Seigneur Dieu viendra avec une main puissante, et son bras régnera avec lui. Une grande récompense est avec lui, et son œuvre est devant lui. Il paîtra son troupeau comme un berger. Il rassemblera ses agneaux dans ses bras, les portera contre son sein et conduira doucement ceux qui sont jeunes. Qui est-ce Dieu? Eh bien, c'est ce que demande Ésaïe. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Pensez aux océans là-bas, il a mesuré les océans dans le creux de sa main. Ils ont classé un autre océan, je crois, près de l'Antarctique, en fonction de la façon dont l'eau se déplace. Mais imaginez d'y ajouter l'océan Indien, le Pacifique, l'Atlantique, l'Arctique, et cet autre océan nouvellement nommé, les Grands Lacs, les rivières, les ruisseaux. Additionnez tout cela, et tout tient dans le creux de la main de Dieu. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main et mesuré les cieux à la paume, avec une règle, ou peut-être avec la largeur d'une main. Ce serait une coudée, je crois. Et il a mesuré la poussière de la terre dans une mesure et pesé les montagnes sur une balance. Oh, je vais peser 500 grammes de farine pour cette recette, pourrait dire une femme. Eh bien, Dieu dit, eh bien, je vais peser toutes les montagnes sur ma balance. Cela remet les choses en perspective. Et les collines sur une balance. Qui a dirigé l'esprit du Seigneur, ou, en tant que son conseiller, lui a enseigné? Personne. Il est disposé à recevoir des conseils. Nous comprenons cela. Nous voyons, par exemple, les 24 anciens ou même des êtres humains. Moïse, il a reçu des conseils, mais il n'a besoin des conseils de personne. Il n'a rien à apprendre de personne. Avec qui a-t-il pris conseil, et qui l'a instruit et lui a enseigné la voie du jugement, lui a donné la connaissance et lui a montré le chemin de la compréhension? Personne. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau et sont comptées comme la fine poussière d'une balance. Voici, il prend les nations comme une chose insignifiante. Donc, si les nations composées de centaines de millions de personnes sont comme une goutte dans un seau, qu'en est-il d'un individu? Qu'en est-il de vous ou de moi? Nous ne sommes rien comparés à Dieu, une vapeur. Que l'on considère le temps ou simplement notre nature même, le rapport est, il y a un gouffre incommensurable entre nous et Dieu. Voici, il prend les nations comme une chose bien petite. Si les nations, frères, sont une goutte d'eau dans un seau, à combien plus forte raison les individus qui composent ces nations? La différence entre un être humain et Dieu est si vaste qu'elle ne peut être quantifiée. Si la différence entre une nation et Dieu est si vaste qu'elle ne peut être quantifiée, à combien plus forte raison un être humain, vous ou moi? C'est un rapport impossible à saisir par l'esprit. Pourtant, Dieu a le désir d'œuvrer avec chacun d'entre nous. Et le Liban ne suffit pas pour le brûler, ni ses bêtes pour un holocauste. Toutes les nations sont comme rien devant lui, elles sont comptées pour lui comme moins que rien et comme vanité. À qui comparerez-vous Dieu, ou à quelle ressemblance le comparerez-vous? L'artisan fond une image taillée, et l'orfèvre la recouvre d'or et y ajoute des chaînes d'argent. Celui qui est si pauvre qu'il n'a pas d'offrande choisit un arbre qui ne pourrira pas. Il aborde ici l'idolâtrie, et ainsi de suite. Verset 26. Levez les yeux vers les cieux, et voyez qui a créé ces choses, qui fait sortir leur armée par nombre. Il les appelle toutes par leur nom, par la grandeur de sa puissance, car il est fort en puissance, aucune ne manque. Pourquoi dis-tu, ô Jacob, et parles-tu, ô Israël, ma voix est cachée au Seigneur, et mon jugement est ignoré de mon Dieu? Pas nous, mais Israël. N'as-tu pas su, n'as-tu pas entendu, que le Dieu éternel, le Seigneur, le Créateur des extrémités de la terre, ne faiblit point et ne se lasse point. Son intelligence est insondable. Et cela nous amène au prochain point dont nous allons parler. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est sans force. Nous commençons maintenant à examiner ce qu'il fait avec les êtres humains, ce qu'il fait avec vous et moi. Il donne de la force à celui qui est sans force, et à ceux qui n'ont pas de force, il augmente la vigueur. Même les jeunes gens faibliront et se fatigueront, et les jeunes hommes chuteront complètement. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne faiblissent point. Nous avons un avenir incroyable. Nous savons que nous allons entrer dans la famille de Dieu. Le revers de ce rapport, aussi insignifiante que soit notre existence dans le grand schéma des choses, que ce soit en termes de temps ou par rapport à ce que nous sommes face à tout ce qu'est Dieu et à tout ce qu'il a accompli. Le revers de ce rapport que je voudrais que vous notiez peut-être, notez 144 000 contre 100 milliards. 144 000 sur 100 milliards. Maintenant, 100 milliards n'est qu'un chiffre approximatif par rapport à ce que nous avons imaginé, par rapport à tous les êtres humains qui n'ont jamais vécu. Personne ne connaît le nombre exact. 100 milliards. 144 000 sur 100 milliards. Des chances extraordinairement minces de faire partie des 144 000. Pourtant, je voudrais maintenant que vous rayiez 100 milliards. Rayez-le. Car cela ne raconte même pas l'histoire. 100 milliards. Ce ne sont que ceux qui ont vécu. Les 144 000 seront toujours là. Il n'y aura jamais 144 000 et un, pour ainsi dire. Nous devons donc considérer ces 144 000 comme une fraction de tous les êtres humains qui ont jamais vécu, mais aussi de ceux qui vivront un jour. Combien de personnes naîtront rien que pendant le millénium? Combien de personnes naîtront au cours des 7 années qui précèdent le millénium? Combien de personnes naîtront dans les générations qui suivront le millénium? S'agit-il de centaines de billions? De dizaines? De centaines? Peut-être de quadrillions de personnes? 144 000 sur X, Dieu seul le sait. Peut-être attend-il de voir combien de personnes seront engendrées dans le grand schéma des choses. Apocalypse, chapitre 14. Apocalypse 14, verset 1, « Je regardais, et voici, un agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui 144 000, ayant le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix venant du ciel, comme le bruit de grandes eaux, et comme le bruit d'un grand tonnerre. Et j'entendis la voix de ceux qui jouaient de la harpe, jouant de leurs harpes, et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre vivants et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ceux-ci ont été rachetés d'entre les hommes, pour être les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Les prémices. Unique. 144 000, personne d'autre ne leur ressemble. Et on ne trouva point de fraude dans leur bouche, car ils sont irréprochables devant le trône de Dieu. C'est incroyable de penser à cette récompense formidable, privilégiée et prévue par Dieu. Ce n'est pas une récompense, mais un don de Dieu. Nous sommes récompensés en fonction de la manière dont nous utilisons notre temps, mais personne n'aurait pu dire, « Tu sais quoi, je vais gagner ma place parmi les 144 000. » Impossible. Dieu nous a choisis personnellement, et les chances qu'il nous choisisse pour cela sont littéralement de 144 000 sur des dizaines de billions, voire des quadrillions de personnes. Cela devrait nous inspirer tandis que nous attendons ce moment où tout changera. Voici un autre rapport, ou peut-être plutôt une comparaison, ce que nous traversons par rapport à ce que d'autres avant nous ont traversé. Ce que nous traversons comparé à ce que d'autres avant nous ont traversé dans la vie. Vous avez, quoi que ce soit, ce contre quoi vous luttez en ce moment. J'ai moi aussi mes propres combats à mener en ce moment. Peut-être que certains d'entre nous traversent des difficultés financières. Peut-être que notre voiture tombe en panne. Peut-être que notre travail ne se passe pas bien. Peut-être qu'un être cher, une personne qui nous était très proche, est décédée. Peut-être sommes-nous persécutés par des membres de notre famille qui ne font pas partie de l'Église. À vous de compléter la liste. Cette liste n'est en aucun cas exhaustive. Mais cela pourrait toujours être pire. Vous pourriez lire, par exemple, le chapitre sur la foi et découvrir ce qu'ont enduré de nombreux serviteurs de Dieu. En voici un seul, dans 2 Corinthiens 11. Ce n'est pas dans le chapitre sur la foi. Voici simplement l'un des serviteurs de Dieu qui a enduré de grandes épreuves. Comment cela se compare-t-il à ce que nous endurons? Nous ne voulons pas nous comparer les uns aux autres et regarder quelqu'un en disant « Oh, je m'en sors mieux qu'eux ». Ce n'est pas mon propos ici. Mais nous pouvons regarder ces vies qui nous sont présentées dans la Bible et dire « Vous savez quoi? Ce que je traverse n'est peut-être pas si grave dans l'ordre des choses. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 22. Paul ici, l'apôtre Paul, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Il établissait ici sa crédibilité. Sont-ils ministres de Christ? Je parle comme un insensé. Je suis plus dans les travaux, plus abondant, dans les coups au-delà de toute mesure. Y en a-t-il parmi nous, parmi le peuple de Dieu, qui ait reçu des coups dans sa vie d'adulte ou dans son enfance? Des coups au-delà de toute mesure, dans les prisons plus fréquemment, dans la mort souvent. Dans la mort souvent, c'est unique. De la part des Juifs, j'ai reçu 5 fois 40 coups moins 1. Battu 39 fois à coups de verge. 5 fois. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. La plupart d'entre nous n'ont fait naufrage que 2 fois, n'est-ce pas? Oh, nous n'avons rien vécu en comparaison. Or, il y a des frères qui devront endurer pire que ceux qui figurent sur cette liste à cause de mauvaises décisions. Nous savons ce que certains saints devront endurer dans le feu à venir. Mais ce que nous traversons, comparé à ce que les serviteurs de Dieu ont traversé dans le passé, ce n'est rien. Rien en comparaison. J'ai passé nuit et jour dans les profondeurs, lors d'un de ces naufrages, souvent en voyage, dans les périls de la mer. Réfléchissez-y, une nuit et un jour, 24 heures peut-être, à flotter sur un morceau de navire brisé au milieu de l'océan avant que les secours n'arrivent. Souvent en voyage, dans les périls des eaux, dans les périls des brigands, dans les périls de mes propres compatriotes, dans les périls des païens, dans les périls de la ville, dans les périls du désert, dans les périls de la mer, dans les périls parmi de faux frères, dans la fatigue et la douleur, dans les veilles fréquentes, dans la faim et la soif, dans les jeûnes fréquents, dans le froid, et la nudité. Cela fait paraître le problème de transmission de notre voiture bien moins grave. Cela fait paraître les tensions au travail comme une promenade de santé si nous sommes prêts à les considérer en comparaison. Dans la fatigue et la souffrance, dans les veilles fréquentes, dans la faim et la soif, dans les jeûnes fréquents, dans le froid et la nudité, sans compter les épreuves extérieures qui m'assaillent chaque jour, le souci de toutes les églises. Paul, cet homme d'une incroyable ardeur au travail, qui est faible, sans que je sois faible moi aussi, qui est scandalisé, sans que je m'en émeuve. Si je dois me glorifier, je me glorifierai de mes faiblesses. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est béni pour toujours, sait que je ne mens pas. Et puis il continue en énumérant des choses comme le fait qu'il a été descendu dans une corbeille par une fenêtre, ayant dû s'échapper une fois. Oh là là, il remet vraiment nos épreuves en perspective. Et qu'en est-il du Christ? Qu'a-t-il enduré par rapport à ce que nous endurons? Pensez en termes de rapport, en termes de fraction, en termes de comparaison peut vraiment remettre les choses en perspective. Un dernier rapport ici. Ce que nous traversons comparé à ce qui nous attend. Pouvons-nous attribuer un rapport à cela? Ce que nous traversons, le niveau d'émotion, le niveau d'intensité de ce que nous traversons comparé à ce qui nous attend. Pouvons-nous attribuer un rapport ou une sorte de comparaison à cela? La réponse est non, nous ne le pouvons pas. Romains chapitre 8, Romains 8. C'est impossible. Romains 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, pourvu que nous souffrions avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Quelque chose d'extraordinaire nous attend, un mystère caché au monde. Nous allons faire partie de la famille de Dieu. Cela peut-il être comparé aux souffrances que nous endurons? Pouvons-nous établir un rapport à cet égard? Eh bien, continuons ici au verset 18. Car j'estime que les souffrances du temps présent, quelles qu'elles soient, elles peuvent être aussi dures que ce que Paul a enduré, ou elles peuvent nous sembler dures, ce que nous traversons. Mais comme je le dirai, ce genre de choses est insignifiant en comparaison, aussi dures que soient nos épreuves, les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. N'essayez même pas de faire un calcul. N'essayez même pas de faire une comparaison, dit Dieu. Elles ne sont pas dignes d'être comparées à quoi que ce soit de ce que nous traversons. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, dans l'espérance. Car la création elle-même sera délivrée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à présent. Et non seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous-mêmes aussi, nous gémissons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Car nous sommes sauvés par l'espérance, mais l'espérance qu'on voit n'est pas l'espérance. Car ce qu'un homme voit, pourquoi l'espérerait-il encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. Nous savons qu'un avenir incroyable nous attend. Cela devrait faire pâlir tout ce que nous traversons actuellement en comparaison. Ainsi, en gardant ses proportions à l'esprit, cela nous donne le bon état d'esprit alors que nous attendons ce moment qui va changer notre vie et qui est juste devant nous. Nous allons passer les dernières minutes ici à parler de l'action que cet état d'esprit devrait engendrer. L'Ecclésiaste, revenons à l'Ecclésiaste, cette fois au chapitre 8. Ecclésiaste 8, verset 5. Celui qui garde le commandement ne connaîtra aucun mal. Si nous vivons correctement, nous connaissons notre avenir. Et le cœur du sage discerne le temps et le jugement. Nous avons discerné que le temps est proche. Nous pouvons discerner les signes des temps. Nous savons à quel point cet appel est extraordinaire. Nous savons tout ce qui nous attend. Nous avons une bonne idée de tout ce qui nous attend. Je dirais cela. Je suis sûr que c'est bien mieux que ce que nous sommes capables de comprendre avec notre esprit humain, et cela semble extraordinaire. Ce moment, sachant que le temps est court, et sachant que nous avons très peu de temps dans le grand schéma des choses, devrait nous pousser à vouloir acheter le temps. C'est ce dont nous parlerons dans la dernière partie de ce message, racheter le temps. Il n'est jamais trop tard pour grandir et changer. Luc, chapitre 16. Il n'est jamais trop tard. Si nous n'avons pas commis le péché impardonnable, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons servir Dieu, si nous nous soucions encore de Dieu, il n'est jamais trop tard, Luc chapitre 16, pour changer et grandir. Verset 1, il dit à ses disciples, « Il y avait un homme riche qui avait un intendant, et celui-ci lui fut dénoncé comme ayant gaspillé ses biens. L'intendant n'avait pas utilisé son temps à bon escient, n'avait pas utilisé ses ressources à bon escient. Il l'appela et lui dit, « Comment se fait-il que j'entende cela à ton sujet ? Rends compte de ton administration, car tu ne seras plus intendant. » C'est grave. Il s'agit bien sûr d'une parabole, mais c'est grave. Alors l'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève l'intendance ? Je ne peux pas creuser pour mendier. J'ai honte. J'ai décidé ce que je vais faire, afin que, lorsque je serai démis de mon poste d'intendant, ils m'accueillent dans leur maison. » L'intendant se mit donc à agir en toute hâte. Il fit donc venir tous les débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » Celui-ci répondit, « 100 mesures d'huile. » Il lui dit, « Prends ta facture, assieds-toi vite et écris 50. » Puis il dit à un autre, « Combien dois-tu ? » Celui-ci répondit, « 100 mesures de blé. » Il lui dit, « Prends ta facture et écris 80. » Et le maître loua l'intendant infidèle, parce qu'il avait agi avec sagesse. Car les enfants de ce monde sont, dans leur génération, plus avisés que les enfants de lumière. Or, cette parabole contient de multiples leçons, mais l'une d'elles est la suivante, si nous nous trouvons dans une situation difficile, il faut se débrouiller. Nous pouvons nous débrouiller. Dieu nous montre qu'on peut faire de la limonade avec des citrons. Même si vous êtes dans une situation difficile, ne vous mettez pas dans cette situation difficile. Idéalement, vous ne devriez pas vous être mis dans cette situation difficile. Se débrouiller avec le temps qu'il vous reste est l'une des leçons à retenir ici. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens 5, verset 14. Peu importe où cela s'applique prophétiquement, cela s'applique à nous tous. C'est pourquoi, dit-il, réveillez-vous, vous qui dormez, Éphésiens 5, 14, et ressuscitez d'entre les morts, et Christ vous donnera la vie. Veillez donc à marcher avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. C'est très concret ici, faites simplement attention à ce que vous faites dans la vie, nous dit Dieu. Marchez avec prudence. Nous savons que ce monde est un endroit sombre et dangereux. Si nous marchons dans une forêt infestée de serpents, nous ferons attention où nous mettons les pieds. Nous marchons dans un monde infesté par l'influence du dieu de ce monde. Nous devons faire attention où nous mettons les pieds, où nous passons notre temps, avec qui nous passons notre temps. Que pouvons-nous faire de notre temps? Veillez donc à marcher avec prudence, non pas comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, et ne vous enivrez pas de vin. C'est une application pratique ici. Ne vous concentrez pas sur le physique. Concentrez-vous sur le spirituel. Nous sommes dans son accès, mais soyez remplis de l'esprit. Parlez entre vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur dans vos cœurs. Concentrez-vous sur le spirituel, dit-il. Remerciez toujours Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ nous avons tant de raisons d'être reconnaissants. Pensez simplement à ces ratios dont nous avons parlé. Tant de raisons d'être reconnaissants. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Maintenant, racheter est un mot très intéressant. Cela signifie acheter, c'est-à-dire payer une rançon. Au sens figuré, sauver de la perte. Quand on paye une rançon, c'est pour quelque chose qui a beaucoup de valeur. Il y a eu récemment un cas d'enlèvement très médiatisé dans l'actualité. Des gens sont kidnappés tout le temps. C'est horrible, mais celui-ci a été particulièrement médiatisé parce qu'il a fait l'objet de nombreux reportages. Cette famille ne voulait pas payer de rançon. La femme était probablement déjà morte, mais la famille ne voulait pas payer de rançon. Pour quelque raison que ce soit, bonne ou mauvaise. On paye une rançon pour quelque chose qui a une grande valeur, que l'on souhaite racheter. Eh bien, Dieu nous dit de racheter le temps. Il a une valeur extraordinaire. Utilisons-le à bon escient. Dans ce cas, payez la rançon pour ce temps. Dépêchez-vous. Comment? Eh bien, Colossiens l'explique plus en détail. Il y a beaucoup de choses pratiques que nous pouvons faire dans Éphésiens, mais voici Colossiens. Colossiens, chapitre 4. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Donnez de l'élan à votre prière. Une fois que nous avons pris l'habitude de prier, il devient plus facile de s'y tenir. Comme pour beaucoup de choses dans la vie, mais bien sûr, il y a aussi des moments où il faut prier sans tarder. Prier selon nos besoins. Au fur et à mesure que les événements se présentent au cours de la journée, mais persévérez dans la prière, en y consacrant un temps régulier. Et veillez à cela avec reconnaissance. Veillez, priez, soyez reconnaissants. Priez aussi pour nous. Pour ceux qui accomplissent l'œuvre, que Dieu nous ouvre une porte pour annoncer le mystère de Christ. C'est pour cela que je suis aussi en prison. Encore ces épreuves que Paul a endurées. Afin que je puisse le manifester comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, en rachetant le temps. Veillez à votre conduite. Nous devrions vivre comme des lumières. Le simple fait de donner le bon exemple, c'est racheter le temps. C'est en grande partie ce que nous faisons déjà. Il est simplement utile de se souvenir de ces choses. Dieu veut que nous soyons un exemple pour les autres. Il va faire de nous l'exemple ultime pour les autres. À tel point que nous enseignerons aux autres comment entrer dans sa famille dans un avenir très proche et au-delà. Il nous confie ses biens les plus précieux, mais il veut que nous soyons un exemple pour eux dès maintenant. Pour qu'à l'avenir, quelqu'un puisse dire, « Tu sais quoi, je me souviens de telle ou telle personne. Oh là là, ils étaient différents dans cette vie. Maintenant, ils se souviennent peut-être de nous avant que nous ne nous tournions vers Dieu. C'est une autre histoire. Alors nous pourrons leur dire, Oui, j'étais comme cela. C'est ainsi que tu te souviens de moi. Eh bien, laisse-moi te raconter comment Dieu a transformé mon esprit et ma vie. Incroyable. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Soyez prudent avec vos paroles. Maintenant, persévérez au verset 2 signifie être sérieux. Persévérez, soyez constamment diligent. Appliquez-vous assidûment à tous les exercices. Adhérez étroitement à cela. Nous voulons prendre ces choses au sérieux. Que ce soit la prière ou notre conduite. Ce ne sont que des idées de base, mais c'est ce dont parle la Bible. Nous avons un temps très limité, frères, pour acheter le temps. Regardez l'exemple du Christ. Jean, chapitre 9. Nous ressemblons davantage au Christ en ce qui concerne la durée de notre vie qu'à n'importe quel serviteur de Dieu qui l'a précédé. Comment cela? Jean, chapitre 9, verset 1. Et comme Jésus passait, il vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui demandèrent, Maître, en disant, Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, Ce n'est ni le péché de cet homme, ni celui de ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Dieu avait toujours prévu de guérir cet homme. D'utiliser Christ pour guérir cet homme afin que les œuvres de Dieu soient manifestées à ceux qui l'entouraient et contribuent au ministère du Christ au premier siècle, ce qui aurait un impact sur tout ce qui allait suivre. Voici ce que dit Christ à la suite de cela, il faut que j'accomplisse les œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. Tant qu'il fait jour. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Puis il guérit l'homme. Christ savait qu'il ne lui restait plus que peu de temps. Il était déterminé à accomplir les œuvres du Père tant qu'il faisait jour. Il savait que la nuit approchait. Nous savons que notre fin approche. Il savait que la fin de sa vie physique, avec tout ce que cela impliquait, approchait. Nous savons que la fin de notre vie physique approche. Nous devons accomplir les œuvres de celui qui nous a envoyés tant qu'il fait encore jour, pour ainsi dire, dans nos propres vies. J'ai entendu récemment quelque chose d'extraordinaire à propos d'un homme qui, à un âge avancé, s'est rendu compte qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. C'était un membre de l'Église. Il a dit, Avant, je prenais mon temps. Maintenant, je suis pressé parce que je n'ai plus de temps. C'est incroyable, vraiment, quand on y pense. Cela devrait nous toucher profondément tous. Avant, je prenais mon temps. Maintenant, je suis pressé parce que je n'en ai plus. Parfois, les tâches les plus difficiles sont liées au temps. On peut, pendant une très courte période, vivre quelque chose de très intense. Je me souviens de ce qui fut, je crois, la pire tâche à laquelle j'ai jamais participé. Je dis pire dans un certain sens. C'était tout simplement d'une fatigue brutale. Je travaillais pour mon père. C'était peu avant que je ne rejoigne le siège social. Nous devions remplacer une chambre froide dans un glacier. Nous avions 24 heures pour le faire, en fonction de l'heure d'ouverture du restaurant. Je ne me souviens pas de tous les détails. C'était un travail de 24 heures. Arracher les panneaux en aluminium de la chambre froide, remplacer la mousse isolante sur tous les murs. D'abord, il fallait sortir toute la crème glacée et la mettre dans des camions frigorifiques. Et ainsi de suite, encore et encore. Je me souviens qu'au bout de 21 ou 22 heures, j'étais encore jeune. J'aime à penser que j'avais de la vigueur et de la force. Mon vieux, comme on dit parfois, m'a surpassé. J'ai dû jeter l'éponge. J'ai dû rentrer chez moi pour dormir au bout de 21 ou 22 heures. Lui, il a continué. Une expérience qui m'a rendu humble à certains égards, mais un effort intense en très peu de temps a permis d'accomplir un travail bien fait. Je n'étais tout simplement pas là pour la fin, je suis triste de le dire. Mes frères, nous ne devons rien tenir pour acquis dans le temps qui nous reste. Nous pouvons travailler dur, nous pouvons nous démener, mais ne tenons rien pour acquis dans le temps qui nous reste. Utilisons ce temps à bon escient. Rachetons le temps. Faisons la volonté de Dieu, et non la nôtre. Concentrons-nous sur ce qui compte. Si nous sentons que nous avons du retard à rattraper, rattrapons-le. Dieu est miséricordieux. Dieu nous aidera à accomplir sa volonté lorsque nous prions chaque jour, que ta volonté soit faite. On peut supposer qu'il nous donnera suffisamment de son esprit pour accomplir sa volonté. Si cela implique de rattraper notre retard, tant mieux. Nous pouvons tous rattraper notre retard à certains égards. Mes frères, vous et moi n'avons pas le luxe d'être pris au dépourvu lorsque notre heure viendra. Nous ne pouvons pas recevoir un appel téléphonique dans ce restaurant et être choqués par la nouvelle, si je peux revenir à l'introduction. Nous n'avons pas le luxe de ne pas savoir quand les choses prendront fin pour nous. Nous savons quand elles prendront fin. Il y a une horloge associée à nos vies. Nous devons être hyperes et concentrés, avec le bon état d'esprit, que nous pouvons aider à cultiver en nous concentrant sur ces ratios dont nous avons parlé au début. Avec le bon état d'esprit et en agissant pour racheter le temps. Nous savons que le temps est compté. Nous voulons agir en conséquence. Il y a des moments dans la vie qui changent tout. Le moment le plus important pour nous est juste devant nous, et ce sera un moment positif et merveilleux. Restons concentrés avec le bon état d'esprit et prenons les bonnes mesures dans le peu de temps qui nous reste.